Chapitre 2. Une lumière rosée glissait sur les prairies, couverte de ce léger réseau blanc dont chaque fil est un fil de diamant. Les arbres bruissaient doucement dans la fraîcheur matinale, comme si, en se réveillant, ils se chuchotaient un bonjour. Sous l'avant-toit, les hirondelles gazouillaient et tournoyaient éblouies, tandis que leur cousine l'alouette redescendait déjà des hauteurs du ciel où elle était allée saluer le premier rayon. Monsieur Job parut sur la porte, abritant ses yeux d'une main contre cette clarté subite et triomphante qui semblait refouler l'ombre dans la maison. « Splendide matin, dit-il. Partons, gribouille !» Il tenait un grand bâton d'églantier et portait en bandoulière une de ces boîtes de fer blanc oblongues et peintes en verre dont la seule vue fait tressaillir le cœur du botaniste, car elle lui rappelle bien des expéditions aventureuses et de glorieuses trouvailles. Ce jour-là n'étant pas consacré aux consultations, M. Job herborisait du matin jusqu'au soir, aussi bien pour sa collection de plantes jurassiennes que pour l'alambic. Au retour, Gribouille était chargé du sac contenant les herbes médicinales et les racines. Son maître le lui attachait sur le dos comme une espèce de selle et l'honnête chien prenait d'un air grave le chemin de la maison, très fier de son fardeau, comme autrefois l'âne chargé de reliques. « Suivons le mur, dit M. Job. Il me faut de la fleur de sureau. Pas de zigzag, mon vieux. Marche derrière moi pour fouler le moins d'herbe possible. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? » Au beau milieu du pré voisin se prélassait une génisse fauve qui broutait le jeune fourrage avec un zèle extraordinaire. Une fillette d'une douzaine d'années, en petit jupon rouge et cheveux au vent, accourait avec de grands gestes désespérés. « Carotte, carotte, méchante, veux-tu bien t'en aller, coquine ? Piler l'herbe comme ça, qu'est-ce que le maître va dire ?» La génisse fit un brusque écart et se mit à galoper jusqu'à l'autre bout du pré avec la grâce légère particulière à sa race. « Mauvaise ! Regardez le carnage qu'elle fait dans les fenasses !» s'écria la fillette en la poursuivant. « Toi aussi, petite nigaude, dit M. Job, tu n'es pas une sauterelle pour courir dans l'herbe sans marquer ton chemin. » La petite bergère se mit à rire en regardant ses longues jambes maigres que le jupon trop court ne réussissait pas même à cacher jusqu'aux genoux. « La maîtresse m'appelle sauterelle tout de même, » fit-elle en montrant ses dents blanches. Monsieur Job venait de prendre dans sa boîte verte un petit paquet d'où il tira une pincée de gros sel gris. « J'en ai toujours sur moi quand je traverse les pâtures, » dit-il. « Ça m'a déjà rendu service. » Et il étendit son bras par-dessus le mur, la paume de la main largement ouverte, pour mieux tenter la génisse qui se tenait tout près, ne demandant qu'à recommencer la partie et à sillonner le pré d'autant de lignes qu'il y en a dans la rose des vents. Voyant le sel, elle avança son mufle gourmand, mais M. Job fit deux pas, la main toujours étendue. Elle suivit l'amorce qui s'éloignait, tant et si bien qu'arrivant à la barrière ouverte, elle la franchit sans s'en apercevoir et rentra docilement dans l'enclos d'où elle n'aurait pas dû sortir. « Ferme le clédard, vite !» dit M. Job à la petite bergère, tandis que demoiselle Carotte léchait avidement le sel qu'on ne lui retirait plus. « Le tour est joué. Ne t'inquiète pas, petite. L'herbe du pré est courte, elle se redressera. » Là-dessus, M. Job siffla Gribouille et s'enfonça dans le sentier des pâtures. Nos grandes forêts de sapins ont un charme qui leur est propre, un attrait inexprimable qu'on n'oublie plus quand on l'a une fois ressenti. La nostalgie des sapins est un mal que les montagnards émigrés ne connaissent que trop bien, une forme toute particulière du Hemingway. Le chêne, avec sa richesse de feuillage et sa majesté, ne possède pas cette intime puissance, ce don magique d'enchaîner les mémoires et les cœurs. Le sapin, austère et vigoureux, toujours vert, même sous la neige, a sa poésie à lui, qui s'en exhale comme un âpre et vivifiant parfum de résine. Ses larges branches n'abritent pas ces fourrés d'épines qui rendent les forêts de chênes impénétrables, des mousses merveilleuses en leur variété couvrent ses racines, un fin gazon s'étend tout alentour et de petits papillons de montagne voltigent sur les genêts d'or. Les troncs droits, rugueux, s'élèvent comme de fortes colonnes, laissant entre eux des espaces libres, des coins de pelouse où tombe une lumière douce, où le vent se glisse avec un frôlement discret. La robuste ramée se balance et soupire incessamment. C'est une plainte qui ne vous rend pas triste, au contraire. Vous marchez à l'aventure dans ce grand promenoir en écoutant les harmonies vagues qui glissent au-dessus de vos têtes et vous voudriez les écouter toujours. Personne, mieux que le médecin, ne jouissait par tous les pores d'une journée passée dans les bois. Sa nature était essentiellement forestière. Il aurait pu dire de lui-même, comme André Theuriet, « Je suis un boisier ». Son regard exercé découvrait, sous les branches traînantes des sapinées, les feuilles de quelques plantes rares qui s'y croyaient à l'abri. À chaque trouvaille, M. Job poussait une exclamation de triomphe, appelait Gribouille en témoignage de sa bonne chance, portait même l'enthousiasme si la découverte en valait la peine, jusqu'à lancer dans les airs son bâton d'églantier qui s'en allait tomber dans des endroits impossibles. Il s'arrêtait parfois pour suivre avec intérêt les pérégrinations de quelque insecte matinal en quête de son déjeuner ou pour découvrir un coucou dans les branches serrées. « Coucou, coucou, bonjour mon garçon. Ce n'est pas la première fois que je t'entends cette année, heureusement, car je n'ai pas d'argent en poche, ce qui serait un très mauvais présage. Tiens, des morilles sous ce sapin. En marchant ainsi le nez en l'air, j'ai failli les écraser. Ce sont les dernières, le printemps s'en va. Je les porterai au vieux Ramus. C'était sa passion dans le temps, le morillage. Mais à présent qu'il a des rhumatismes et une troisième femme, la forêt ne le voit guère. Quatre morilles fraîches, voilà la potion que je lui donnerai ce soir. Il n'y fera pas la grimace comme à la dernière. » Le soleil montait dans le ciel. Déjà quelques rayons aigus, perçant l'entrelacement des branches, dessinés sur la mousse fraîche, ces lumineuses oasis dont les lézards font leur baignoire pour y prendre des douches de chaleur. Une route blanche, qu'on apercevait dans le lointain à travers les arbres, semblait rayonner d'une poussière tournoyante dans la vive clarté de midi et rendait l'ombre du bois plus discrète et plus désirable. Monsieur Job s'assit sur une vieille souche, tout enguirlandée de lierre, tira de sa boîte à ressources un gros morceau de pain, quelques tranches de jambon et une bouteille de vin coupée d'eau. Gribouille, installé entre les genoux de son maître, surveillait avec un vif intérêt la disparition des comestibles, tout en y travaillant lui-même sans perdre une minute. « Rassemblement général des outils !» s'écria Monsieur Job quand la dernière miette eut disparu. Il remit son couteau en poche, jeta la boîte verte sur son épaule. « En route, mon vieux ébouriffé, la moitié de la besogne est encore à faire. Hey, »« Eh, vous, dites voir, où-ce qu'il passe, mon chemin ?»« Encore faudrait-il savoir où vous allez, » fit M. Job en se retournant. Une vieille femme, aux pieds traînants, ridée, courbée, très proprement vêtue mais l'air grognon, s'avançait derrière lui. « Eh bien, quoi ? C'est mon tout simple chemin que je vous demande, » fit-elle avec impatience. « Si c'était la route de la lune, vous pourriez me regarder avec ses yeux, pas son corps. »« Où allez-vous ? » répéta M. Job. « Quoi ? Où allez-vous ? Qu'est-ce que vous dites ? Où allez-vous ? » s'écria M. Job d'une voix tonnante. « Je ne suis pas sourde, excusez, pour que vous brailliez comme ça, » fit cette aimable personne en reculant d'un air offensé. « Où je vais ? Vous êtes bien curieux, monsieur l'homme. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Monsieur l'homme ne put s'empêcher de rire. « Comment voulez-vous que je vous indique votre chemin ? » se hasarda-t-il à demander, au risque de provoquer une nouvelle explosion. « Il y a du vrai là-dedans, mais vous pourriez avoir un peu d'honnêteté tout de même, » répliqua l'irascible vieille personne. « Je vais chez l'Albertine, Albertine Ducré, au bas de la combe, pour lui porter des plantons de laitue. On n'est que remués de germain, mais on cousine toujours un peu entre les deux familles. Le parentage est une bonne chose, une belle chose. Il en est même parlé dans le catéchisme, mais les jeunes n'en font point de cas. Si vous me disiez que vous avez par le monde une douzaine de cousins que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, je n'en serais pas étonnée. » En même temps, elle regardait M. Job d'un air sévère, comme pour dire « N'essayez pas de me cacher vos crimes, j'y vois clair, allez !»« Le bas de la combe, » fit M. Job, « c'est encore loin, ma pauvre dame. Vous devez tirer à droite, puis quand vous trouverez une loge, vous passerez par derrière pour prendre le chemin. Ensuite, vous descendrez tout droit. »« Est-ce que vous me parlez ? Qu'est-ce que ça signifie de remuer ainsi les lèvres sans rien dire ? Si c'est un tic que vous avez, vous feriez mieux d'avertir les gens. » Sourde comme une roche, pensa M. Job. Pauvre vieille. J'irai avec vous, c'est mon chemin, dit-il très haut. Hein, comme vous voudrez. Si ça vous fait plaisir de profiter de ma compagnie, je ne peux pas dire non, c'est sûr. Ils se mirent en route. La vieille femme, fatiguée, marchait lentement. Donnez-moi votre panier, dit M. Job, vous irez plus facilement. Elle lui jeta un coup d'œil plein de soupçons. N'était-ce pas là un artificieux voleur prêt à abuser de sa vieillesse et à s'enfuir avec la corbeille et les laitues? Et à s'enfuir avec la corbeille et les laitues, valeur totale 90 centimes? Cependant, le panier pesait à son bras. Elle s'avisa d'un expédient ingénieux. « Prenez un des côtés de l'anse, dit-elle, je tiendrai l'autre. » Monsieur Job goûtait peu cette façon d'aller, très incommode, quand un monticule ou quelques arbrisseaux barraient le chemin. Cependant, il prit son mal en patience. « Voilà le sentier, dit-il au bout de quelques minutes. « Si le tier, qu'est-ce que c'est que ce nouveau patois? Pour un homme mal éduqué, c'en est un, celui-là, poursuivit-elle. « Impossible de tenir une conversation avec lui !» Cet aparté peu flatteur fit sourire M. Job et l'exaspération de la vieille dame ne connut plus de bornes. « Si vous parlez nègre ou fribourgeois, je n'en sais rien, moi. Je ne suis pas une païenne pour comprendre les langages d'Amérique. Expliquez-moi mon chemin, vite, et je vous tirerai ma révérence avec bien du plaisir. » « Vous voyez cette loge là-bas ? » commença le médecin avec un effort de patience. « Je vous demande de m'expliquer mon chemin et vous êtes là à marmotter du charabia » interrompit-elle. « Hé !» Et elle s'arrêta comme frappée d'un trait de lumière. « Est-ce qu'il ne serait pas sourd par hasard ? Voilà l'affaire, il ne comprend pas ce que je veux, le pauvre homme. Et moi qui me fâchais tout noir ? Mais aussi, pourquoi ne pas le dire franchement ?» Puis avec force geste, elle lui donna à entendre qu'il eût à l'accompagner un peu plus loin. Monsieur Job n'était pas trop fâché de cette méprise qui le dispensait d'une conversation pleine d'épines. Il reprit sa route silencieusement, puis, arrivé à l'endroit où le sentier se bifurquait, il étendit la main dans la direction à suivre. « Merci !» dit la vieille femme en reprenant possession de ses laitues. « Vous êtes bien obligeant, mon brave homme. Si vous pouviez m'entendre, je ne vous le dirais pas, ça vous donnerait de l'orgueil. » « Mais comme vous avez l'oreille puissamment dure, ça ne peut pas vous faire de mal. Bonjour, bonjour !» Et elle s'éloigna dans une disposition d'esprit qui ressemblait presque à de la bonne humeur. « Un brave homme tout de même, je ne m'en dédie pas » murmurait-elle en descendant le sentier. « Il a porté mon panier d'aussi bonne grâce que si j'étais une jeunesse de 20 ans. Quel dommage qu'il soit sourd. Il y a des gens qui prétendent que j'entends dur. » Mais lui, c'est bien autre chose. Autant vaudrait chanter devant une muraille. Quel mauvais chemin, et mal tenu que ça porte peur. Au lieu de venir par les bois pour m'y perdre, comme le petit chaperon rouge avec son panier, j'aurais dû suivre la grande route. Que de pierres, que de pierres! Je n'ai jamais vu un climat si rocailleux. Cependant, M. Job, après être revenu sur ses pas, s'était arrêté auprès d'un de ces chalets exigus qu'on appelle loge dans le Jura et où l'on rassemble le bétail à l'heure de traire. C'était une construction très primitive, faite de planches non rabotées, dont les interstices étaient remplis de mousse. De grosses pierres grises et plates, alignées sur les bardeaux du toit, défendaient celui-ci contre les entreprises du vent rageur qui s'amusent souvent à décoiffer les chalets. Une pente douce, couverte de ce gazon fin et ras qu'on foule avec tant de plaisir à la montagne, descendait de la loge jusqu'à une éclaircie de la forêt. La plus charmante perspective s'ouvrait au-delà. des prairies ensoleillées, un chemin rapide que gravissait lentement une charrette traînée par deux bœufs roux, des saules gris penchés sur un ruisseau, le lointain vaporeux et comme estompé, le ciel d'un bleu doux à travers la feuillée, composait un délicieux petit tableau dont les tons fins eussent charmé le coloriste le plus délicat. M. Job sifflait doucement entre ses dents. C'est ainsi qu'il avait coutume de payer son tribut d'admiration à la nature. Gribouille, lui, n'étant pas artiste, mais très curieux, faisait un voyage d'exploration autour du chalet. Tout à coup, il se mit à aboyer. Son maître s'avança et aperçut de l'autre côté de la loge un jeune homme penché sur le bassin où les vaches avaient coutume de boire. Cette fontaine rustique était aussi belle en son genre que plus d'un aristocratique jet d'eau, car l'onde claire et fraîche, descendant d'une source voisine, s'est lancée du goulot de bois avec une abondance impétueuse et, pressée de se faire jour, ruisselait de tous côtés en petites cascades étincelantes. Le jeune homme, entendant des pas, tourna la tête. Il avait l'apparence d'un ouvrier de campagne. Son chapeau de jonc était tombé à terre, à côté d'un petit paquet. De la main droite, l'étranger soutenait la gauche, qui saignait par une large coupure et avait déjà rougi l'eau du bassin. « Voilà une vilaine entaille, » dit M. Job en s'approchant. « Laissez-moi vous arranger ça. »«
Nicht französisch, » répondit l'autre d'un ton évidemment désappointé.
« Et moi, nicht deutsch. Comme ça se trouve, des sourds ou des Allemands, on ne rencontre que ça aujourd'hui. » C'est égal, un service se rend dans toutes les langues. Donnez-moi votre main, confédéré. » Tirant une petite trousse qu'il portait toujours sur lui et qui contenait les objets nécessaires à un pansement, M. Job y prit un peu d'amadou pour arrêter le sang, puis rapprocha les deux lèvres de la coupure par une bande de sparadrap, y appliqua les feuilles fraîches d'une plante vulnéraire qu'il avait cueillie le matin, et, avec le mouchoir du jeune homme, enveloppa la main blessée de façon à ne pas gêner le mouvement des doigts. « Danke, danke !» disait son patient avec effusion. « Il n'y a pas de quoi, » répondit M. Job en s'éloignant. « C'est mon métier. Je suis un chevalier errant dont la mission spéciale est de secourir les bergères en faisant rentrer les vaches dans leur pacage, de remettre les vieilles femmes dans leur chemin et de faire en général tout ce qui se présente. » Ce n'est pas très héroïque, mais quoi? Chacun ne peut pas être un Wickelried. Si lui s'est dévoué en grand, nous tâchons de nous dévouer en détail. Et qui sait si cette menue monnaie du sacrifice n'a pas autant de valeur que les médailles glorieuses des héros de l'histoire? Pendant que je suis de ce côté, se dit M. Job, je pourrais bien pousser jusqu'à la combette. Il y a beaucoup de sureaux le long de la charrière et je passerai chez Justine pour voir comment elle se tire de son déménagement. Deux ou trois maisons à toit gris, à demi cachées au fond d'un ravin, faisaient monter au-dessus des arbres leurs colonnes de fumée blanche. Devant la plus humble d'entre elles, un char était arrêté. Un grand garçon de 16 ans s'occupait à y charger quelques pauvres meubles, sans grand souci des lois de l'équilibre. « Bonjour, Pierre !» s'écria M. Job en approchant. « J'arrive à point pour te donner un coup de main, mon garçon. »«
Je voudrais bien donner un coup de pied à quelqu'un d'autre, » grommela Pierre. « C'est le fils du bourgeois qui est là à tournailler depuis au moins 2 heures, sans doute pour voir si nous n'emportons pas les 4 murs de la baraque en partant. »«
Arthur Piquet ?»«
Lui-même !» Entrez toujours, vous aurez le plaisir de l'apercevoir en grandeur naturelle, ressemblance garantie. Laisse-moi d'abord serrer cette corde. Ne vois-tu pas que ces chaises vont dégringoler au premier contour? Pour un apprenti horloger, tu n'as pas le compas dans l'œil.
M. Job monta sur le char, raffermit du mieux qu'il put l'échafaudage chancelant, et il allait redescendre quand un grand garçon osseux, aux épaules si maigres qu'elles paraissaient coupantes, se montra sur le seuil. Il nous a déjà été présenté, mais de dos seulement, le jour où il opérait valeureusement sa retraite parmi les saules du ruisseau. C'était Arthur Piquet, l'héritier présomptif de plusieurs domaines, et, en attendant mieux, l'économe très économe et le gérant peu miséricordieux des biens paternels.
à part ses titres de propriété et son livret de caisse d'épargne, il avait peu d'autres charmes. Sa figure était désagréable, sans être précisément laide, une mine à gifler, comme le disait Pierre, avec plus d'énergie que de politesse. C'était un de ces visages impertinents qui font que la main vous démange d'y appliquer un soufflet. Des yeux arrogants, un sourire qui voulait être hautain, mais l'air bas et plat en somme. « Eh, dis donc, toi, bout d'homme !» fit cet aimable jeune personnage en s'adressant à Pierre. « Les trois planches qui étaient dans la cave, qu'en avez-vous fait ?»«
Mangé hier soir à souper, avec du beurre, » répondit Pierre gravement.
« Je crois que tu me montes une scie, ma parole !»«
Croyez-vous, comme il est intelligent, ce bon jeune homme, pour son âge !»
Le ton gouailleur du gamin commençait à exaspérer l'auguste fils du propriétaire quand M. Job intervint.
« Voyons, Pierre, pas de bêtises. Où as-tu mis ces planches ?»«
Elles sont dans la cave, pardi. Elles n'en ont pas bougé depuis le déluge. Seulement, le bon jeune homme n'a pas osé fouiller dans les coins, crainte des rats. Il y en a un bataillon et féroce. Prenez garde, Monsieur Arthur. Quand ils vous mordent, ils enlèvent le morceau. » « Ne feriez-vous pas mieux d'aller à la maison chercher le fusil de votre papa ?»«
Monte sur le char, singe que tu es, » dit M. Job, « et fouette, cocher. Ton chargement est complet maintenant. Je verrai ta mère avant de partir. »
Le lourd équipage s'éloigna lentement, traîné par un gros cheval que quelques voisins obligeants avaient prêté pour ce jour-là à Justine.
« Eh bien, » dit M. Job, en se tournant vers son compagnon avec un sourire de bonne humeur, « vous êtes venu donner un coup d'œil au déménagement de vos locataires. C'est une excellente idée. Un homme peut toujours se rendre utile dans ses grands branle-bas. »
Le médecin avait pour principe de sous-entendre de bonnes intentions chez les autres aussi souvent qu'il en voyait la possibilité. Il prétendait qu'un excellent moyen de rendre son prochain meilleur est de supposer qu'il l'est déjà.
« fit Arthur un peu embarrassé.
« Oui, oui, c'est vrai. »
Et en lui-même, il se demandait si M. Job ne l'avait pas reconnu le soir précédent et ce que Virginie avait bien pu lui conter. De ses yeux gris, qui eussent été beaux s'ils avaient regardé les gens honnêtement en face, il épiait l'expression du médecin.
« Je verrai bientôt ce qu'il y a au fond de son sac, » pensait-il.
« Et comment ça va-t-il donc ?» poursuivit M. Job. « Votre pied est tout à fait guéri. Il pourrait danser aussi bien que l'autre. »«
Voilà, voilà, pas encore. Il y a toujours un peu d'enflure et une marque bleue au-dessous de la cheville. Et puis, j'y ai des lancers de temps en temps. Mais par rapport à ce que c'était l'hiver passé, je me trouve à la croix du ciel à présent. »
« Vous ne donneriez pas la recette de votre onguent, par hasard? Ma mère voudrait bien la voir. »«
Non, » dit M. Job en riant, « je la lèguerai à un hôpital. Vous allez partir, attendez donc une minute, le temps d'entrer dans la maison pour dire bonjour à Justine et aux marmots. Vous me laisserez après ça tâter un peu votre cheville pour voir si tout est bien rentré en place. Ce sera une consultation gratuite. » ajouta-t-il, sachant bien que ce mot de gratuit avait pour l'aimable Arthur un charme infini.
C'est bien le moins, après la somme énorme que votre père m'a payée hier, terriblement à contre-cœur, il faut lui rendre cette justice. En est-il un peu remis, le pauvre homme? Là, attendez-moi un instant. Il entra dans la maison et reparut tôt après, portant dans ses bras sa petite favorite, Linette.
« Rien à faire, c'est un sens-dessus-dessous admirable, une vraie soupe à la bataille. En fait de soupe, les souliers sont dans les marmites et une douzaine d'œufs dans les souliers. Eh bien, ça va donc mieux, ma mignonne. Tu as bien dormi la nuit passée. Laisse-moi sentir ta petite main. Si tu es bien sage et que tu ne permettes pas à cette vilaine fièvre de revenir, je t'achèterai un joli petit pain blanc la première fois que je descendrai au village. » « Va trotter, maintenant !»
Et, posant l'enfant à terre, il se tourna vers Arthur. « Asseyez-vous sur cette pierre, » dit-il, « je vous ferai peut-être un peu mal. »
Il passa légèrement ses doigts expérimentés sur la cheville malade, puis il se mit à masser le pied avec énergie. Demandez à votre mère, dit-il, de vous faire une longue bande de forte toile et de vous serrer ferme par ici, voyez-vous. Prenez garde aux faux pas. Une nouvelle entorse serait grave.
Ah, vous pouvez croire, monsieur Job, que je prends soin de moi à présent, dit Arthur d'un ton grave et senti.
Et c'était très facile à croire, en effet.
Nous retournons du même côté, ajouta-t-il, avec l'espoir de glaner encore en chemin quelques avis utiles et gratuits.
Oui, et cela se trouve bien, car j'ai à vous parler d'une affaire sérieuse.
Arthur sentit qu'il était pris. Toute protestation n'eût servi qu'à lui donner l'air d'un coupable. Il se mit à marcher et attendit la suite en silence.
Je pourrais vous raconter une longue histoire que j'ai entendue hier pour la première fois, commença le médecin. Mais ce serait inutile. Vous la connaissez, cette histoire, aussi bien que si vous l'aviez faite.
Qu'en dites-vous ?
Raisonnons. Virginie ne sera jamais votre femme. Elle est fiancée à un autre et, d'ailleurs, elle ne vous aime pas.
Elle m'aimait, interrompit Arthur.
Pas très fort, en tout cas, et c'est bien fini, je vous assure. Mais vous, est-ce que vous l'aimez ?
Si je l'aime, c'est la plus jolie fille que je connaisse. Toutes les autres sont lourdes et brûlées du soleil, de vraies paysannes. Mais Virginie est blanche et légère comme de la crème fouettée.
Monsieur Job ne put s'empêcher de sourire à cette métaphore gourmande et se rappela en même temps que Ferdi avait comparé sa douce fiancée à une nuit de printemps. Ces riens-là peignent un homme.
Elle est bien élevée, continua Arthur. Elle s'entend à tenir un ménage, elle est tranquille comme une souris, et puis elle ne sera pas sans rien à la mort de son père. C'est une fille parfaite, sauf qu'elle s'est mise en tête ce Ferdinand et sa moustache noire et ses airs fendants. Je l'abomine, ce garçon-là. Je voudrais le tenir entre deux portes et lui serrer la vis pour voir sa grimace.
Les méchants yeux gris étaient vraiment féroces en cet instant.
« Je souhaite, dit calmement M. Job, que Ferdinand, lui, ne vous tienne jamais entre deux portes. Il aurait bientôt fait de vous aplatir. Croyez-moi, restez à distance de son poing. »«
Occupez-vous de vos tisanes, fit-il brutalement. De quoi vous mêlez-vous ?
De vos affaires, mon garçon, et elles ne s'emporteront que mieux. Tout cela finira mal pour vous. Laissez en paix Virginie. C'est cruel de lui gâter ainsi la vie à cet enfant. » Votre mère vous trouvera bien une autre femme. Soyez généreux, mon garçon, oubliez votre rancune. Voyons, donnez-moi votre main et votre parole d'honneur que vous renverrez ce soir cette malheureuse lettre ou que vous me l'apporterez pour que nous la brûlions ensemble.
Arthur restait silencieux. Un instant, M. Job crut que la bataille était gagnée. Mais bientôt, le jeune homme poussa un éclat de rire ironique.
Crois bien, fit-il. Vous êtes naïf comme tout, docteur. Cette lettre, je l'aime, je la chéris. C'est ma vengeance. Quand je veux m'amuser à bon compte, je la relis. Mais je la sais par cœur. Un de ces jours, je la réciterai à Ferdinand.
Le jour où les lièvres seront des lions, fit M. Job avec dédain.
Arthur Piquet, vous êtes un lâche. Ça me soulage de vous le dire en face.
Il mit tant de mépris dans cette déclaration peu fardée que son compagnon baissa les yeux involontairement.
« Puisqu'il ne sert à rien d'en appeler à votre générosité, reprit le médecin, écoutez au moins votre intérêt. Quand Ferdinand Lardy apprendra que vous tenez sa fiancée entre vos pattes et que vous jouez avec elle comme un chat avec une souris, il vous écrasera ni plus ni moins qu'une pomme pourrie et ce ne sera pas moi qui mettrai du baume sur vos meurtrissures. » « Donnez-moi cette lettre de bon gré. J'arrangerai tout en douceur et Ferdinand ne vous touchera pas. »«
Merci, vous êtes bien charitable de vous intéresser à moi, » répondit Arthur d'un ton moqueur. « Mais le jeu m'amuse. C'est drôle de voir voler mon hanneton au bout d'un fil. Quand l'orage viendra, je saurai bien passer entre les gouttes. »
Il tourna sur les talons et s'en alla, les mains dans ses poches, le menton en l'air, laissant M. Job désappointé et chagrin.
« Le sentiment ni la logique n'y peuvent rien, se dit-il. La chasse est finie, je n'ai plus de cartouches. » Il se remit en chemin d'un air méditatif, tandis que Gribouille, qui se trouvait délaissé, essayait d'attirer l'attention de son maître par des échappements discrets. Cependant, M. Arthur Piquet, une fois hors de vue, laissa tomber ses airs fanfarons. Un certain malaise, qui ressemblait à un pressentiment, le gagnait malgré lui. « Où tiendra le docteur ? » pensait-il. « Sans lui, je pourrais tenir la belle Virginie sur cette petite balançoire de mon invention, jusqu'à ce qu'elle crie à grâce ou que le jeu m'ennuyât, ce qui ne serait pas de sitôt. À présent, tout est dérangé. » Et l'intéressant jeune homme pensait avec humeur que ce mège était vraiment bien contrariant de venir ainsi troubler ses innocents plaisirs. « Je n'ai pas la moindre idée de l'heure, » fit-il en tirant sa montre. « Bon, me voilà flambé pour la banque aujourd'hui. 4h30, et le père qui m'avait tant recommandé d'aller changer ce billet. Il va me monter une belle gamme. Diantre de docteur, c'est encore sa faute. J'en prends note. Allez, monsieur Job, vous me revaudrez tout ça un beau jour. » Savourant ainsi de doux projets de vengeance, ce qui lui était du reste un sujet de méditation ordinaire, l'héritier des domaines Piquet arriva bientôt chez lui. La maison était grande, bien bâtie, bien entretenue, et pourtant, elle avait l'air maussade et chiche. Aux fenêtres se montraient des rideaux très blancs, mais trop courts de deux doigts, comme s'ils eussent été taillés dans quelques coupons de rencontre. Aucun pot d'œillet ou de géranium fleuri n'égayait cette large façade morose. Détail caractéristique, le bras de la pompe, qui s'ajustait à un crochet, s'enlevait facilement et se cachait à l'ordinaire derrière la porte, dans le corridor. Quand les gens de la maison voulaient tirer de l'eau, ils savaient où le prendre. Mais le contenu de la précieuse citerne était ainsi à l'abri des enfants ou des piétons altérés qui auraient pu avoir l'idée indélicate de boire une gorgée en passant. D'autres fermiers, au contraire, prennent soin de laisser toujours un gobelet suspendu au goulot de la fontaine ou posé sur la marge du bassin pour que chacun puisse se désaltérer à son aise. Mais la famille Piquet appartenait à une autre école d'économie rurale. Du reste, l'honneur de cette invention ingénieuse revenait exclusivement à Arthur. Quand nous avons établi une belle citerne toute cimentée et une pompe qui nous a coûté les oreilles, ce n'est pas pour que tous les rôdeurs du pays en profitent. Notre eau est à nous. S'ils ont soif, qu'ils boivent la pluie dans leurs casquettes. Monsieur Piquet père s'applaudissait d'avoir un fils aussi intelligent. Arthur trouva la maison vide, sauf un petit domestique qui achevait de traire à l'étable. Le maître était en course, la bourgeoise sarclait son jardin. « Elle a laissé du café pour vous sur le foyer. »« Je le verrai bien sans que tu t'en mêles, parbleu. Quand on ne te demande rien, ferme ton bec, » répliqua l'aimable Arthur. Le bov lui tira la langue par derrière, mais n'osa pousser plus loin ses protestations. Dans la cuisine, un petit feu achevait de mourir au milieu des cendres. Une cafetière de cuivre aux flancs arrondis et perchée sur trois hautes jambes chauffait tout doucement parmi les tisons. Arthur s'assit sur un escabeau près du foyer et ranima le feu car il aimait à boire son café bouillant. Puis il tira de sa poche un petit portefeuille qu'il ouvrit avec un sourire narquois. Si ce grand brouillon de docteur avait su que je portais sur moi la fameuse lettre, il aurait été dans le cas de me colleter pour la voir. Je ferais bien d'en garder une copie en cas d'accident. » Dans une des cases du portefeuille, au milieu de beaucoup d'autres papiers, se trouvait une feuille jaunie et froissée pliée en quatre. Arthur la caressait du bout des doigts avec une sorte de volupté méchante quand un jet de vapeur s'échappa de la cafetière et le liquide monta en bouillonnant par-dessus le couvercle. Arthur se pencha sur le feu pour procéder au sauvetage de l'ustensile. La lettre glissa de ses genoux, tomba sur les braises en se dépliant. Son possesseur aussitôt lâcha la cafetière, dont tout le contenu se répandit sur le foyer et sur les dalles. En se brûlant les doigts, il saisit la lettre par le coin de la première page et la sauva de l'incendie. Mais au même instant, un papier vert caché entre les deux feuillets s'échappa en voltigeant, prit feu aussitôt et fut consumé en deux secondes. « Le billet ! » s'écria Arthur. Il n'en restait qu'une pincée de cendre et une petite flamme bleue qui dansait au-dessus d'un air moqueur. Un billet de banque tout neuf, 100 francs réduits en fumée. Le pauvre garçon, si rudement éprouvé dans ses affections les plus chères, regardait le feu comme atterré, tandis que le café répandu ruisselait en petites cascades brunes et formait des miniatures d'étangs entre les dalles. Ce beau billet, je l'avais plié bien soigneusement et mis à part dans mon portefeuille. Voyons, est-ce que je l'avais mis à part tout de même ? En ce moment-là, le père me parlait. Il me disait qu'il avait refusé 400 francs de la fauvette. Moi, je trouvais qu'il aurait dû accepter. Il se fâchait, moi aussi, nous avions des mots, et pendant ce temps, le billet se nichait n'importe où, avec toute cette boussifaille de vieux papier. 100 francs, je les aurais mis à la caisse d'épargne pour tenir chaud aux autres. En 20 ans, ils se seraient doublés. 200 francs, c'est la moitié d'une vache, c'est 8 petits cochons, c'est 200 fois 1 franc, pour tout dire, c'est 400 pièces de 50 centimes. Quand on se représente ça... Sans doute, les petits lutins du foyer, guignant de derrière le grand coquemard et voyant la mine déconfite d'Arthur, battaient des mains et chuchotaient entre eux « C'est bien fait, c'est bien fait !» Quand on se représente ça, répétait-il, trouvant peu de consolation dans son arithmétique. Il allait s'arracher une poignée de cheveux, mais il s'arrêta juste au moment de dépouiller sa personne de cet ornement. Une idée de génie venait de traverser son cerveau. « Cette maudite lettre est la cause de tout, dit-il. Elle me le paiera. » Le même soir, à la brune, le bovis de la ferme Piquet apportait à M. Job un billet cacheté. « Il n'y a pas de réponse, dit-il. » Et il s'en alla. M. Job, pensant qu'on l'appelait auprès d'un malade et trouvant ces cérémonies de correspondance bien singulières, ouvrit le pli et n'y lut que ces mots. « Je vous la vendrai pour 200 francs. Demain. » Ni date, ni signature. Les caractères renversés et évidemment contrefaits. L'auteur de ce billet laconique désirait apparemment éviter tout ce qui aurait pu donner aux productions de sa plume une valeur de document. « Je vous la vendrai ? Qui ? Quoi ?» fit M. Job un instant dérouté. Il n'avait pas accordé grande attention au petit messager qui, du reste, n'avait fait que paraître et disparaître. Tout d'un coup, il devina. « Ah » fit-il lentement et avec dédain. « C'est donc là qu'il en est ? Ça finit platement. Une rancune d'amoureux traduite en bons coups de poing loyalement appliqués, ça se comprend encore, mais une vengeance cotée en francs et centimes me paraît une ingénieuse nouveauté digne d'une âme vraiment financière. » Maintenant, la question est de savoir si nous nous prêterons à cette spéculation. M. Job se promena pendant quelques minutes à grands pas dans la vaste pièce basse où il avait coutume de se tenir le soir. Sa lampe de travail couverte d'un abat-jour vert était déjà allumée et laissait tomber sa blanche clarté sur un livre ouvert que le docteur feuilletait au moment où il avait été interrompu. Dans le fond de la pièce était un grand lit à rideaux rouges qui ressemblait à une caverne pleine d'ombre. Aucun tableau n'ornait les parois brunies. Des volumes assez nombreux étaient rangés sur les tablettes, une écritoire de bronze assez belle mais fort unie était posée sur la table. Les meubles, par leur simplicité et leur petit nombre, eussent pu convenir à la cellule d'un chartreux. Pas même un fauteuil de cuir, rien que des chaises à dossier droit et un vieux canapé dont personne ne mettait les services à réquisition, tant l'apparence en était anguleuse. Dans cette pièce, tout était austère, comme la vie même du docteur. M. Job était perplexe. Il passait la main dans sa rude chevelure et la tirait à pleine poignée sans s'en apercevoir. Allonger 200 francs à ce plein individu, c'est vexant, murmurait-il. Et pis que ça, c'est immoral. Mais le repos de Virginie, ne faut-il pas le considérer aussi? Elle n'a pas la somme, c'est clair. Je pourrais la lui avancer, quitte à elle à me la rembourser un jour ou l'autre, quand elle fera un héritage. Accepter, c'est se prêter à une coquinerie manifeste, à un tour de chantage, c'est se laisser tondre d'une façon bien moutonnière. Refuser, c'est s'exposer peut-être à cet éclat que Virginie redoute tant. Toc, toc. Entrez. Une tête assez mal peignée se glissa dans l'entrebâillement de la porte.
Ce n'est que moi, monsieur Job.
C'est toujours autant. Vous avez fini votre besogne ?
Oui, monsieur Job.
Le reste de l'homme se décida à suivre sa tête. C'était le journalier ordinaire, Vacher, jardinier et factotum du médecin, brave garçon, un peu simple, mais dévoué à son patron.
« Oui, oui, monsieur Job » répéta-t-il en toussant derrière sa main.
« Bon, c'est en règle, » dit le docteur d'une façon distraite en reprenant sa promenade.
« Est-ce que, par hasard, » reprit l'autre en surmontant sa timidité et en saisissant à deux mains les revers de son propre gilet, comme s'il eût médité de s'enlever lui-même à la force du poignet par-dessus quelque obstacle invisible, « est-ce que, par hasard, on pourrait jeter un œil sur les papiers ce soir ? On dit qu'il y a des bruits de guerre par là. »
Il désignait d'un geste circulaire les quatre points cardinaux, n'étant pas très fort en géographie et supposant que l'Égypte devait se trouver quelque part derrière la pâture aux Maniens, en Bise, à moins que ça ne tirât plus à droite du côté des Allemagnes.
« Voilà les journaux, » dit M. Job en poussant sur la table une ou deux feuilles locales d'un air légèrement ennuyé, car l'honnête factotum, qui demandait régulièrement 6 fois par semaine à jeter un œil sur les papiers, était une nature expansive et commentait fort longuement chaque paragraphe.
« Vous avez la feuille ce soir, hein ?» dit le brave garçon en s'asseyant modestement tout au bord d'une chaise, car on a des manières, s'il vous plaît, on sait le respect qu'on doit à ses supérieurs.
La feuille, pour lui, sans autre désignation et par excellence, était la feuille d'avis des montagnes qu'il lisait pieusement, sans en sauter une syllabe, commençant par la partie officielle et les communications émanant de l'État, à tout seigneur tout honneur, traversant ensuite les colonnes d'annonces avec une solennelle lenteur, hochant la tête aux demandes d'ouvriers et d'apprentis.
« On dirait que l'horlogerie reprend, monsieur Job, mais ces bruits de guerre... »
Et il restait silencieux une minute, comme s'il écoutait la canonnade là-bas du côté de l'Égypte.
Puis il recommençait sa lecture, comptait les chambres à louer, les appartements à remettre.
« 4 de moins que la semaine passée, monsieur Job.
Bon, bon. Qui est-ce qui dit que la population diminue ? Tous les logements se remplissent.
Pour un ménage sans enfants.
Monsieur Job, il n'aime pas les enfants, tous ses propriétaires. J'ai remarqué ça.
Élixir de santé, guérison infaillible, pommade d'antimoine, flanelle antirhumatismale, sirop antiscrofuleux, pilule anti... C'est drôle, tous ces anti-anti.
Semelle hygiénique. Il faut que les malades y mettent de l'entêtement, monsieur Job, depuis le temps qu'on leur offre de les guérir.
Monsieur Job, absorbé dans ses propres réflexions, ne répondit rien. Oui et non se croisaient incessamment dans son esprit.
Écoutez voir celle-ci, s'écria l'implacable lecteur, parvenu à la colonne des faits divers.
À la suite du charivari que nous avons rapporté la semaine dernière et qui a mis en émoi la commune de...
L'un des auteurs de cette grossière plaisanterie, ayant vendu pour la somme de 20 francs le nom de ses complices à la personne offensée, fut assailli de nuit par ses compagnons et battu sans miséricorde.
Ma foi, on me donnerait 20 francs à moi que je ne pourrais pas le plaindre.
Mais savez-vous, monsieur Job, il me semble que dans ces histoires-là, celui qui achète fait tout aussi mal que celui qui vend. Je ne vois pas de différence.
Monsieur Job venait de s'arrêter en face de son journalier, les bras croisés, l'air pensif.
Celui qui achète fait tout aussi mal que celui qui vend, répéta-t-il.
Tu n'as pas tort, mon garçon.
Merci, c'est en règle.
Il s'assit et reprit sa lecture, en homme qui est fixé maintenant.
La sagesse parle par la bouche des simples. Comment ai-je pu hésiter une minute ? Se demandait-il.
Un peu plus tard, quand il fut seul de nouveau et n'eut pas d'autres interruptions à craindre, il prit un grand cahier relié comme un registre, dans lequel il inscrivait chaque soir les incidents marquants de la journée, les visites qu'il avait faites et l'état de ses malades. Il ne s'y étendait pas en épanchement. C'étaient de simples notes qu'il y traçait en un style net et concis, des références qui devaient venir en aide à sa mémoire et auxquelles il recourait souvent. Voici ce qu'il écrivit ce soir-là. Botaniser tout le jour. Renouveler ma provision de sureau. Examiner mon herbier. Envoyer quelques exemplaires de fritillères à M. L. Rencontrer sur mon chemin deux ou trois occasions de rendre service. Peut-être plusieurs autres se sont-elles présentées que je n'ai pas su découvrir. On ne fait jamais autant de bien qu'on en pourrait faire.